This Mother's Day, treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their advanced eye care duo brightens and firms skin around your eyes, while the Golden Glow Body Trio nourishes and smooths skin all over. Go to oseamalibu.com and use code MOM for 10% off your first order site-wide.
Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue dans Le Rendez-vous Tech, l'émission hebdomadaire où on vous résume toute l'actualité tech, internet et gadgets. Premier vrai, entre guillemets, épisode de 2019, donc bonne année à tous. J'espère que vos fêtes de fin d'année se sont bien passées et que votre nouvelle année commence magnifiquement. Si c'était pas le cas jusqu'à maintenant, je suis sûr qu'après cet épisode, ça va le devenir tout à coup, comme par magie, la magie du bonheur du podcast. Je suis Patrick Béja. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir, après une pause bien trop longue, l'ami Stéphane Leblois-Cellier. Comment tu vas, Stéphane, aujourd'hui ?
Salut Patrick, bonne année à tous les poditeurs qui nous écoutent. Effectivement, c'est vrai que ça fait un moment que j'étais pas venu. Et tout à l'heure, on en parlait en off et que ça fait quasiment 2 ans. Voilà. Donc, autant te dire que je l'écoutais dans ma voiture, je continue d'écouter le podcast et ça me manquait un petit peu de participer. Voilà.
Ah, bah, je comprends. Mais du coup, peut-être que tu peux te représenter pour les auditeurs qui ne se souviennent peut-être plus de toi ou qui ne t'ont jamais entendu.
Oui, bah alors moi Stéphane Leblois-Cellier. Alors à la scène, vous me retrouvez chez les amis de Studio Renegade, hein, puisque j'anime l'émission Tech pour les barbus qui est Beats tous les 15 jours. Et puis je suis aussi YouTuber, donc j'ai ma chaîne d'impression 3D qui est Révolution 3D, voilà. Et puis à la ville, je suis consultant en sécurité des systèmes d'information.
Magnifique, c'est parfait. Et figure-toi que c'était pas du tout prévu, mais j'étais en train de préparer les noms des patriotes, des gens qui soutiennent l'émission à remercier pour cet épisode. Et quel est le premier nom sur lequel je suis tombé ? Je fais dans l'ordre, hein. Eh bien, c'est le nom d'un certain Stéphane Leblois-Cellier. Donc double merci à toi. Et ça me donne l'occasion justement de remercier Stéphane Leblois-Cellier, Lolo Perrier, Benito Camelo, Rudy Celli et Captain Haddock, A-D-H-O-C, bien sûr. Donc, merci à vous tous qui soutenez l'émission et qui lui permettez d'exister et qui vous lancez dans cette nouvelle année en faisant un beau geste envers cette émission que vous appréciez. Et si vous aussi, chers auditeurs, chers poditeurs, vous appréciez l'émission, je vous encourage à aller jeter un petit coup d'œil du côté de patreon.com/rdvtech pour voir si peut-être vous voudriez y contribuer, sachant que c'est le seul moyen pour l'émission d'être financée. Donc, j'apprécierais beaucoup, si vous appréciez l'émission, bien sûr, votre soutien. Donc, c'est sur patreon.com/rdvtech. Et on va se lancer dans l'émission à proprement parler. On va parler de la valeur de Facebook avec une approche un petit peu intéressante et une étude que j'ai trouvée très intéressante. On va parler d'Apple. J'essaye d'éviter généralement de parler trop d'Apple, mais là, il y a des informations nouvelles qui donnent l'occasion de regarder un petit peu l'état de la société et je pense que ça va être intéressant d'en parler. Et puis, on parlera aussi de tendances pour 2019, d'un petit regard en arrière aussi et de plein d'autres petites choses comme ça. Mais donc, on va commencer avec ce sujet Facebook. Facebook est beaucoup dans les news et dans les actus depuis longtemps, mais en particulier, on va dire, l'année dernière. Et on parle souvent de cette idée de combien est-ce que vaut Facebook pour les utilisateurs. Alors là, on ne parle pas de la valeur boursière de la société, mais combien est-ce que le service que vous rend ce site vaut pour vous ? Et c'est une question qui est différente et à laquelle il est très difficile de répondre. Et il se trouve qu'il y a une étude hyper intéressante qui a été publiée par deux organismes différents qui ont mis en commun leurs études. C'est deux organismes américains, enfin deux universités américaines, Kenyon College et Susquehanna University, pardon. Ils ont, et il y a aussi Tufts University, bref, c'est des études universitaires avec le Michigan State University, c'est des universitaires américains qui ont essayé de regarder de manière scientifique, vraiment rigoureuse, autant qu'il le pouvait, la valeur qu'attribuaient les utilisateurs de Facebook à ce service. Et pour ce faire, alors je vous spoil déjà la fin, ils sont arrivés à la conclusion que les utilisateurs estimaient la valeur du service à environ 1 000 $ par an. Et je pense que, Stéphane, tu seras d'accord avec moi, quand on entend cette somme, on se dit « Non mais attends, jamais de la vie, je paierai 1 000 $ par an pour utiliser Facebook, c'est n'importe quoi, ces études, on peut leur faire dire n'importe quoi. » Alors,
ils sont fous ces Américains.
Bah, certainement, c'est un chiffre élevé, mais la méthodologie qu'ils emploient est vraiment intéressante et pas si fantaisiste que ça. J'irais même jusqu'à dire que, bon, je suis pas un pro de ce type d'études, mais j'ai l'impression que c'est pas fantaisiste du tout pour tout un tas de raisons, sans rentrer dans les détails que sur lesquels je me tromperais certainement, quelques éléments à prendre en compte, c'est le fait qu'ils estiment, il y a une différence entre la valeur qu'on attribue à quelque chose et le prix que ça vaut. Et la valeur est souvent différente du prix, et souvent le prix essaye de cibler aussi bien que possible la valeur, mais... Là, ils ont, par exemple, demandé aux gens combien il faudrait vous payer pour que vous n'utilisiez pas Facebook pendant un jour, une semaine. Je crois qu'ils sont limités à une semaine. Donc ensuite, ils extrapolent pour trouver le...
Ils extrapolent
le
prix, pour un an. Ouais.
C'est ça. Donc évidemment, c'est peut-être pas tout à fait la même chose, mais l'enjeu, entre guillemets, était quand même relativement sérieux parce que... Ils prenaient les informations de connexion des personnes qui participaient à l'étude et effectivement, quand ils arrivaient au bout du processus, ils étaient prévenus bien sûr, mais s'ils acceptaient le prix qu'on les payait, eh ben, ils avaient effectivement le compte Facebook bloqué pendant cette durée. Alors bien sûr, ensuite on peut dire ils vont aller recréer un autre truc, mais c'est quand même significatif. Il y avait aussi tout un tas de systèmes de sécurité, genre on prenait le prix, et donc oui, ils étaient bloqués sur le service, donc leur compte était bloqué, mais ils recevaient aussi l'argent en question. Il y avait aussi un système pour limiter les choses fantaisistes, comme par exemple, on payait l'argent que la deuxième personne qui avait donné le plus, demandé le plus, avait demandé, de manière à ce que quelqu'un puisse pas dire « je veux 1 000 000 » et qu'ils aient à payer 1 000 000. Il y avait aussi tout un tas de questions avant qui faisaient en sorte qu'on rentrait dans l'état d'esprit de l'étude et que c'était pas juste de but en blanc d'un moment à l'autre. Combien vous demanderiez pour... C'est pour habituer un petit peu les gens dans l'étude à cette idée que on demande la valeur du truc et placer les personnes dans un contexte un petit peu sérieux. Bref, tout un tas de trucs qui font que c'est pas juste une étude complètement fantaisiste, mais qui est quand même qui donne des résultats surprenants, parce que admettons même qu'ils soient trompés et que les gens ne veuillent pas 1 000 $ pour s'arrêter d'utiliser Facebook, que ça soit moins ou un peu plus, ça donne une vague idée. Je suis curieux de savoir de ce que tu penses de l'étude en général et puis de la somme en deuxième plan, ou peut-être même de la somme en premier plan et de l'étude ensuite. Qu'est-ce que ça t'a inspiré, cette révélation ?
Bah, comme je te l'ai dit, hein, ils sont fous ces Américains. Non, alors, avant de te donner mon avis, je suis désolé, j'avais une mission à remplir si je participais à un rendez-vous tech cette année. Hein, donc, coucou Baptiste, voilà, il comprend.
D'accord, ok. Salut Baptiste, on lui fait tous des bises.
Message personnel. Écoute, la démarche, j'ai trouvé la démarche quand même plutôt intéressante. Voilà, le fait de, il y a quand même beaucoup de questions qui se recoupent, etc., etc. Ils ont pas sorti un chiffre comme ça d'une boîte à chapeau, tu vois. Donc j'ai trouvé ça intéressant. J'aime beaucoup la remarque en plein milieu de l'article qui dit attention, on n'est pas en train de dire à Facebook qu'ils doivent commencer à facturer les gens 1 000 € par an. ça m'a beaucoup fait rire. Après, enfin 1 000 $. Après, effectivement, je sais pas combien il faudrait me payer moi pour pas utiliser Facebook pendant un an, mais beaucoup moins cher, je pense.
Mais c'est ça qui est intéressant, parce que on sait pas vraiment, on se base tous sur nos impressions personnelles, des estimations un petit peu au doigt mouillé, et là, il y avait vraiment des conséquences à l'étude, et surtout, je crois que ce qui ressort de cette conclusion, c'est que si on nous demande combien vous serez prêt à payer pour utiliser Facebook, je pense que nous tous, et même les gens qui ont participé à l'étude, ne diraient jamais 1000 dollars. Mais quand on dit combien il faut te payer pour que tu n'utilises pas Facebook, la question devient un petit peu différente.
C'est compliqué parce que ça veut dire qu'il y a une dépendance à Facebook, tu vois, qu'on doit te payer pour pas que tu l'utilises.
C'est parce que Facebook te rend...
En fait, justement...
C'est ça qui est frappant, c'est que Facebook, on le sait tous, mais Facebook rend un service en échange de données personnelles, bien sûr, et de publicité, de ciblage publicitaire, mais Facebook rend un service aux utilisateurs. Et c'est la valeur de l'absence de ce service qu'on est en train de quantifier. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, peut-être que nous, on est un petit peu plus technophiles, on n'est pas forcément aussi friands de Facebook que d'autres, que des gens entre guillemets normaux. Je suis sûr que chez les auditeurs, il y a plein de gens qui se disent « Non, mais moi, Facebook, je l'utilise tous les jours. » Il y a plein de gens chez les participants à cette étude qui disaient « Oui, mais moi, j'en ai besoin pour le boulot, j'ai des communications avec pour le networking, avec mon manager, avec ce genre de trucs. » Mais il y a aussi des gens qui l'utilisent simplement pour rester en lien avec des membres de leur famille, des amis qui voient peut-être pas tous les jours. Et ça, c'est un vrai service qui est rendu. Moi, je suis curieux de la réponse que donneraient les auditeurs. Peut-être que même les auditeurs sont un petit peu plus technophiles, mais je suis sûr que ça serait pas une somme complètement triviale non plus qu'il faudrait les payer chez les gros utilisateurs de Facebook, comme il y en a beaucoup dans le monde, pour qu'ils arrêtent complètement de l'utiliser.
Alors, ce qui est étonnant, c'est que Facebook fait quand même face à, je ne sais plus, ils sont à 31 scandales pour l'année dernière, je crois.
Quelque chose comme ça.
Donc on sait qu'ils font de l'argent avec nos données personnelles. Bon, quelque part, on l'accepte. Ce qui est étonnant, c'est que malgré tout ça et le fait qu'ils soient dans la tourmente, les gens, il y a une certaine encore addiction à Facebook. Je rappelle pour info que si on veut rester en contact avec sa famille, il y a aussi quelque chose qui s'appelle le téléphone.
Mais tu sais, c'est la réponse que donnent de nombreuses personnes. Et je crois que c'est un petit peu une réponse de vieux con.
J'aime bien faire mon vieux con. Tu peux envoyer des photos par SMS, etc. Alors c'est vrai que là, tu touches tout le monde tout de suite. Mais aujourd'hui, enfin, de là à dire qu'il faudrait payer pour ne pas utiliser Facebook, tu vois, je trouve...
Est-ce que tu utilises Twitter, toi ?
Ouais.
Ok. Peut-être que Twitter est un meilleur exemple. Est-ce que tu serais prêt à abandonner Twitter du jour au lendemain sans compensation financière ?
Ouais.
Ah bon, ok.
Instagram, peut-être pas.
D'accord.
On a chacun nos trucs. Mais
c'est intéressant. Du coup, Instagram est un service qui te rend service. De Facebook, bien sûr.
De Facebook, c'est ça qui est rigolo.
Est-ce que tu serais prêt à abandonner si je te dis demain, je te file 10 euros et tu n'utilises plus Instagram pendant un an?
Ah oui, non, mais je le fais.
D'accord. Tu le fais, c'est-à-dire que tu prends les 10 euros?
Je le fais sans prendre les 10 euros. Par contre, ça me poserait certains problèmes. Mais Facebook et Twitter aussi. C'est-à-dire qu'il faudrait que je trouve une solution pour pallier au manque de communication que je vais avoir.
Le problème. Les mails et les SMS, ça pallie pas. Ça pallie pas à tous les services qui te rendent.
Non, parce que, enfin, moi, aujourd'hui, j'utilise surtout Instagram, Twitter et Facebook pour ma chaîne YouTube, par exemple. Et clairement, là, j'aurais un gros outil de communication en moins. Mmh. Tu vois? Voilà. Ma famille, etc., je pense que j'arriverai à m'en sortir. Mais c'est vrai que du coup, ça couperait contact avec des amis. Mais j'écoutais un podcast la semaine dernière dans la voiture, et quelqu'un qui disait que justement, il avait coupé Facebook depuis quelque temps, et il y avait silence radio parmi ses amis pendant un moment. Et il comprenait pas. Et puis petit à petit, ses amis ont commencé à lui envoyer des textos. Salut, tu vas bien? Ah, tu vas plus sur Facebook? Donc il leur a dit j'ai décidé de moins l'utiliser, etc. Et du coup il a repris contact avec ses amis par téléphone, par Skype, etc., etc. Et il s'est dit finalement on arrive à s'en sortir sans Facebook. Alors réponse de vieux con, oui, parce que mais ça reste quand même possible. Après je suis d'accord que c'est un outil génial pour maintenir les contacts avec sa famille, etc.
C'est ça le truc.
Moi, je limite de plus en plus. Vraiment, je limite énormément Facebook.
Là, on est parti sur une autre discussion qui est un petit peu tangentielle de est-ce qu'on a besoin de Facebook ou pas. Mais c'est vrai que on peut être en contact par SMS, téléphone, machin, avec 10 personnes de notre famille et 10 amis. Mais Facebook, on suit souvent beaucoup plus de gens que ça.
C'est
alors
ça.
Peut-être que c'est des gens avec qui on n'a pas vraiment besoin d'être en contact. Je suis convaincu qu'on n'a pas besoin d'avoir les infos, les news de 350 personnes, de nos 350 amis Facebook ou plus. Mais ça veut quand même dire que il y a des gens dont on aimerait avoir des nouvelles qui sont pas forcément des gens qu'on avec lesquels on communiquerait au jour le jour. Mais bon, le cœur de cette étude, c'est effectivement cette somme de 1000 euros qui est extrapolée ou de 1000 dollars qui est extrapolée d'une somme hebdomadaire. Et c'est vrai qu'on est un petit peu incrédule face à ce montant. Mais, alors, encore une fois, je suis pas académicien, je saurais pas vous dire si l'étude est vraiment fiable ou pas. Elle a l'air vraiment d'être sérieuse. Et il y a un moment où la réalité de la science doit aussi indiquer des choses sur notre jugement. Quand on arrive à une telle somme, ça doit bien vouloir dire que quelque part, au moins pour certains utilisateurs, peut-être qu'ils sont pas dans nos cercles ou dans nos bulles, on accorde une valeur bien plus importante que ce qu'on pouvait imaginer à ce type de service. Et nous, quand on plaisantait, on disait « Ah, si Facebook devenait payant, machin, les gens pourraient... T'imagines, il faudrait... chaque utilisateur, en fonction des pays, rapporte genre 10, 12, 15 euros par mois. Donc, ça veut dire qu'il faudrait payer au moins ça. Mais c'est de la folie, jamais personne ne le ferait. » Je pense quand même que c'est vrai, mais il n'empêche que cette étude nous indique quelque chose de beaucoup plus... J'ai presque envie de dire effectivement un petit peu préoccupant parce que comme tu le disais, ça veut dire qu'il y a une, j'aime pas le terme addiction, mais en tout cas une sorte de monopole qui fait qu'on n'a pas vraiment d'alternative.
C'est ça en fait surtout. Hein. Après on peut le prendre comme ça ou on peut le prendre en disant aujourd'hui il y a quand même un vrai besoin de maintenir le contact avec des gens qu'on connaît plus ou moins, les gens de sa famille, etc. Hein. C'est pour ça on peut définir certains critères et pas partager tout avec tout le monde. Donc ça c'est plutôt bien. Donc il y a un besoin qui est là. Aujourd'hui c'est Facebook qui apporte une solution à ce besoin. Peut-être que demain et il y a une autre solution qui va émerger. Mais en tout cas, cette somme-là, pour moi, ça veut dire qu'effectivement, il y a, au sein de la société, au moins des gens qui ont été interrogés, un réel besoin.
Oui, ça, c'est effectivement. Si on veut réduire la conclusion à son plus simple dénominateur commun, c'est effectivement l'expression d'un vrai besoin qui dépasse la fantaisie ou un petit peu une envie de distraction. Ça rentre dans le domaine du besoin, là, je pense qu'on est d'accord. D'ailleurs, Microsoft a un projet qui est intéressant, un projet un petit peu secret, qui a été... levé par, je crois, c'est Marie-Jo Foley. C'est le projet Bali qui tente de construire un système où les utilisateurs ont la capacité de visualiser et de contrôler et de monétiser leurs données personnelles. Alors, c'est un projet peut-être qu'il ira nulle part, hein, on ne sait pas très bien, mais c'est un truc, ça a déjà été imaginé par d'autres personnes. Si je ne m'abuse, je crois que Tim Berners-Lee a créé une société dans ce but-là, mais... C'est aussi une idée qui est dans l'air depuis un moment et qui est hyper intéressante. C'est de se dire bon bah ok le capitalisme des données, je crois, qui est un terme créé par des Américains si je ne m'abuse. Mais donc toute cette économie des données capitalistes qui vise à utiliser ces données comme monnaie d'échange pour accéder à des services, pour jouir de certains services, et ben peut-être qu'il y a une autre manière de la présenter, une manière qui donne plus le contrôle aux utilisateurs, et c'est ce que tente visiblement de mettre en place Microsoft. Et l'idée est intrigante, encore une fois, elle n'est pas 100% nouvelle, mais si Microsoft s'y met, peut-être que ça pourrait donner quelque chose, quoi.
Oui, après avoir effectivement visualisé, contrôlé, géré ces données, est-ce que c'est pas aussi se donner de la légitimité pour en collecter encore plus?
C'est ça en plus. Qu'il faut voir. Oui, c'est possible. Mais ensuite, si on a nous le contrôle de ces données et on peut contrôler lesquelles on partage, etc. Bah pourquoi pas?
Oui, d'ailleurs, lesquels on partage. C'est, alors sur la monétisation, du coup, j'ai un peu de mal à voir, parce que ça veut dire quoi? On va ouvrir un marketplace où je pourrais aller vendre mes données personnelles directement?
Bah, d'une certaine manière, c'est-à-dire que l'idée, ça serait que chaque donnée a une, j'imagine, hein, mais une valeur attribuée, et puis on vous dit, pour utiliser Facebook gratuitement, vous devez partager telle et telle et telle et telle donnée, et là, vous avez accès au service, tu vois? Et donc, c'est pas que ça monétise de, enfin, peut-être qu'il y aurait des gens même qui vous paieraient pour avoir accès à vos données, mais on peut imaginer que même sans transaction financière, ça puisse prendre cette forme. Ce qui est, alors, encore une fois, les défenseurs de la vie privée à tout prix, ça risque de les faire hurler, mais je crois que si c'est fait en connaissance de cause, ça poserait sans doute moins de problèmes éthiques à de nombreux d'entre nous. Je suis sûr que Guillaume, avec notre épisode précédent où on parlait de l'éthique des données personnelles, serait peut-être pas d'accord, mais moi, ça me semble, ça, disons que même si c'est pas une solution parfaite, ça me semble poser moins de problèmes moraux que la solution qu'on a aujourd'hui.
Bah, disons que voilà, c'est, enfin, si on a une visualisation de nos données, etc. Déjà, on est plus RGPD compliant, déjà, on va dire.
Bah ça, la visualisation, en théorie, c'est possible partout. Hein. On peut aller voir sur tous les services qu'on utilise quelles données ils ont et même les supprimer si on veut. Donc ça, alors, c'est déjà possible.
Sauf que pour le vivre au quotidien, parce que c'est un peu mon métier, et puis en ce moment, je fais beaucoup de RGPD. La majorité des entreprises, quand tu cliques sur le lien, il y a rien qui se passe. Ils vont faire un traitement manuel ou quelques-uns ont des traitements automatisés derrière. Ça prend un certain temps. Là, on peut imaginer qu'on aurait tout d'accessible via un portail ou quelque chose, tu vois. Et du coup, avoir accès immédiatement à la donnée. Donc, à voir.
Bon. Oui, à voir, effectivement. Et puis, ça reste.
Il y a un lien vers la page du projet qui avait fuité. Hein, je l'avais vu quand c'était passé sur le tweet. Mais je crois que le lien est plus accessible.
Oui, bah oui, forcément. Elle l'a trouvé. C'est bien Marie-Jo Folli hein, qui a publié sur SDNet.
C'est ça, ouais.
ZDNet, pardon. Et oui, le lien, effectivement, a été. Mais bon, ensuite, c'est un projet. Il est possible que ça donne rien. Mais l'idée est quand même intéressante. Et puis surtout, le fait que Microsoft se plonge là-dedans pour un projet de recherche, ça veut dire que ça travaille. Les géants de la tech, quoi. Bon, parlons un petit peu d'Apple. Mais c'est vrai que souvent, j'évite quand il y a des infos, des rumeurs, ce genre de choses.
Quand des gens annoncent la mort d'Apple, encore une fois, c'est ça que tu veux dire?
Et ben voilà, c'est ça. J'essaye d'éviter d'en parler à tout bout de champ parce que pour moi, c'est beaucoup de spéculation et un petit peu trop courante pour avoir des bases sérieuses. Mais là, il y a un événement qui s'est produit pour le trimestre précédent. Donc, c'est en fait le dernier trimestre de l'année qui est compté comme premier trimestre de l'année suivante chez Apple, si je ne m'abuse. Je dis peut-être des bêtises avec ces questions comptables, mais en tout cas, ils font des prévisions, comme toutes les sociétés cotées en bourse, pour les revenus qu'ils vont avoir sur le trimestre suivant. Et là, pour la première fois depuis très, 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 très longtemps, ils sont arrivés en dessous des prévisions qu'ils avaient données. Ils avaient donné des prévisions de revenus de 89 à 93 milliards de dollars et ils sont arrivés à 84 milliards de dollars, ou en tout cas, ils ont révisé leurs prévisions parce qu'ils n'ont pas encore tous les comptes, mais ils sont bien en dessous de ce qu'ils avaient prévu. Évidemment, l'action a chuté. Je crois qu'elle est maintenant à quelque chose comme 700 millions de dollars, sachant qu'il y a genre moins de 6 mois, elle était à 1 milliard. Donc, bon, la bourse, c'est la bourse. Mais c'est hyper intéressant parce que c'est donc la première fois depuis longtemps que ça arrive. Et surtout, ça dénote d'un certain nombre de choses, comme le fait que Apple, comme Samsung d'ailleurs, et d'autres, n'ont pas vu venir la chute de revenus de Chine, qui, entre parenthèses, d'après ce que je comprends aujourd'hui, a presque une attitude patriotique envers les téléphones mobiles, et que le fait d'acheter Apple, dans le contexte de la guerre commercial entre les États-Unis et la Chine, le fait d'acheter Apple, ben c'est vu comme un petit peu antipatriotique. Donc ça peut jouer dans ce domaine, mais tous les analystes ont dit Apple.
Est-ce que ça joue sur la note sociale, tu crois?
Écoute, c'est possible. Oui, si vous avez sur le crédit social, si vous avez un téléphone non chinois, vous baissez votre crédit social de tant de points.
Et vous ne pouvez plus prendre le métro. Mince.
Exactement. mais oui, donc il y a la saturation du marché qui maintenant est clairement là. Les problèmes en Chine et ces grosses tendances qu'ils n'ont pas vu venir, et surtout ça pose la question de l'avenir d'Apple de manière peut-être. Je pense que maintenant on a suffisamment de recul pour pouvoir se poser la question. l'émission de manière à dépasser simplement l'idée « Ah, Steve Jobs n'est plus là, donc ça va, tout va merder, et donc Apple est foutu », ce qui était un petit peu ridicule il y a quelques années encore. Surtout que Tim Cook a réussi à faire grossir la société et les revenus de la société de manière significative. Mais là, on arrive à un stade où Steve Jobs est mort depuis un moment, on commence à avoir une vision sur l'évolution de la société. L'iPhone reste l'énorme majorité des revenus de cette boîte. Et on peut voir en même temps un truc qui est intéressant, qui est que l'Apple Watch, qui est considéré, je pense, en général comme un produit relativement mineur dans le business d'Apple, représente aujourd'hui plus de revenus que les iPods à l'apogée de l'iPod. Donc, ça dit quelque chose quand même sur la nature de la société qu'est Apple aujourd'hui. L'iPhone est une masse de revenus monumentale, mais il y a d'autres parties de la société qui font énormément d'argent aussi. À l'époque où Apple révolutionnait le monde de la musique avec l'iPod, j'ai pas l'impression que on disait Apple c'est une petite société. Et aujourd'hui, rien que l'Apple Watch, ça représente plus d'argent que l'iPod à l'époque. Donc c'est bon, ça a été il y a 15 ans aussi, mais il n'empêche.
Ouais, voilà, autre temps, autre mœurs, j'ai envie de dire.
C'est sûr, mais encore une fois, en fait, le problème d'Apple, c'est un petit peu l'iPhone, j'ai l'impression. C'est tellement énorme l'iPhone que on a l'impression que
si l'iPhone va pas, Apple va pas.
Et c'est vrai, ça c'est vrai. Si l'iPhone ne va pas, Apple ne va pas. Mais si on regarde l'état de la société et l'avenir de la société, est-ce qu'il est raisonnable de se dire qu'Apple va réussir à reproduire ce succès? En tout cas, clairement, là, ils y sont pas arrivés. Ils ont pas l'air d'être en chemin pour y arriver. Donc, je sais pas. C'est compliqué je crois qu'aujourd'hui, il est compliqué de se dire. Apple va réussir à renouveler ad vitam le succès incroyable de cet iPhone. Mais
j'ai du mal à y croire aussi. Hein. Tu sais, tout marche par plus ou moins par cycle. Est-ce qu'on n'arrive pas à la fin d'une ère, l'ère de l'iPhone, et est-ce qu'on va pas devoir passer à autre chose? Je ne sais pas. Aujourd'hui, c'est vrai que je pense qu'ils ont peut-être un peu trop compté sur les ventes du 10R. Qui sont décevantes, alors que c'est pourtant un bon produit. Il y a peut-être une erreur dans la gamme aujourd'hui, plus qu'autre chose. Alors après, c'est rigolo parce que on dit oui, les ventes sont pas bonnes, etc. Enfin, faut quand même pas oublier que il y a moins de volume, mais il y a plus de marge. Donc au final, ils sont pas malheureux. Hein.
Ah non, ça c'est sûr. D'ailleurs, ils ne dévoilent plus les chiffres en quantité de d'unités vendues. Ils parlent que de revenus par utilisateur, ce qui se comprend aussi. D'ailleurs,
mais rappelle-toi, parce que quand ils l'ont fait déjà, l'action a chuté.
Oui, oui, bien sûr, parce que c'est une préoccupation. Le fait que ils vendent moins d'unités, c'est évidemment quelque chose de préoccupant. Encore comme tu le disais, on va pas pleurer pour eux. Ils en vendent encore pas mal, mais. Mais on arrive à un moment où l'excellence de Tim Cook dans la logistique est avérée. Je pense qu'il est indéniable qu'il a fait un travail incroyable à ce niveau. Mais la question, on va dire le mot, même si c'est presque un gros mot, je trouve, parce qu'il est tellement utilisé à tort et à travers, la question de l'innovation, maintenant, je pense, se pose légitimement. Et il y a des gens qui vont me dire, elle se pose depuis longtemps, machin. Oui, bon, on peut pas
elle
vendre la peau de
l'ours avant de l'avoir tué. Jusque-là, ils arrivaient quand même à faire que les gens renouvellent leur iPhone.
Bah, là, voilà. Sur l'iPhone, moi, c'est même au-delà de ça, parce que, alors, l'iPhone, on sait que, il y a un autre problème, c'est qu'avec la saturation, les utilisateurs changent de téléphone plutôt tous les 3 ans que tous les 2 ans. Donc, forcément, ça se ressent, chez Apple. D'autant plus que les téléphones, d'Apple peuvent s'utiliser beaucoup plus longtemps que, les téléphones d'autres marques. Et je suis sûr que ça va faire, grincer
des
dents.
Il va y avoir
des
commentaires.
Bah oui, mais, c'est quand même une réalité. Et donc, on sait qu'en 2019, a priori, selon certaines rumeurs, il n'y aurait pas de nouveau design de l'iPhone et qu'on attendrait 2020 pour avoir peut-être un écran percé, comme on va le voir cette année avec d'autres téléphones. Mais c'est quand même la question de la suite de l'iPhone maintenant qu'on peut vraiment se poser. Et Apple n'a pas vraiment de réponse. Il y a plein de gens qui disent Apple va devoir se transformer en société de produits et devenir une société, enfin quitter le, ou plutôt équilibrer la société de produits avec des sociétés, une société de services. Et on voit certaines choses intéressantes, comme par exemple le fait qu'ils intègrent AirPlay 2, qui est leur protocole de diffusion d'images sur différents supports, à des télés, dont des télés Samsung d'ailleurs, ce qui vient d'être annoncé. Il y aura oui. des applications iTunes sur des télés Samsung aussi. C'est quand même marrant de voir qu'ils se font une concurrence féroce ailleurs et que là, ils vont intégrer certains... Samsung va intégrer certains services d'Apple, mais d'autres marques de télévision vont le faire aussi.
Ça va relancer les rumeurs d'un Netflix-like de la part d'Apple.
Ah bah ça, on s'est avéré, hein. On sait que ça va arriver. On voit aussi d'ailleurs que Netflix a désactivé la possibilité de s'abonner à son service par iTunes, de manière à ne pas avoir à payer les 30% ou les 30 et puis 15% pour abonnement à Apple.
Parce qu'on n'a pas fait Molotov encore. Molotov,
oui, bon, le problème, c'est que tu peux le faire quand tu as atteint une certaine masse critique. C'est compliqué à faire quand tu es une société, enfin, quand tu es 99% des sociétés qui utilisent les services d'Apple, qui ont d'ailleurs une certaine valeur, puisqu'ils distribuent votre app, etc. Mais bon, quand tu es une énorme boîte comme Amazon ou comme Netflix ou comme d'autres qui ne vous permettent pas d'acheter leurs services ou leurs produits numériques par l'application, tu peux aller le faire par ailleurs et t'es suffisamment gros pour que ça n'impacte pas ton business de manière significative. Mais oui, donc ça veut dire encore que Apple n'est pas focalisé sur cette ou pas encore focalisé sur cette idée de service. Et qu'ils vont peut-être devoir le faire. Alors il y a encore le fantasme de la voiture sur laquelle ils travaillent et d'autres choses, mais
oui, la télé.
Là, oui.
Après, il y a des vraies choses sur lesquelles ils travaillent. Hein. La maison connectée, ils y travaillent avec HomeKit. Il y a quand même des choses très sympas.
Ouais, mais tout ça, c'est pas un nouveau Mac. C'est pas un nouvel iTunes. C'est pas un nouvel iPod. C'est pas un nouvel iPhone. C'est pas, même si c'est pas un énorme succès comme l'iPhone, c'est pas un nouvel iPad. Et l'Apple Watch, oui, c'est sympa, mais là encore, on reste en... Enfin, c'est marrant de dire ça, mais l'Apple Watch, c'est pas un succès incroyable, alors que effectivement, ils ont...
Quand on voit les chiffres, effectivement, c'est quand même plutôt pas mal. Mmh. Et alors, a priori, il paraît que la prochaine génération sera absolument géniale. Voilà.
Ah bah ça, c'est ce qu'on dit de tous les produits Apple.
Tu
as tes sources.
C'est une source d'un fournisseur d'électronique chez Apple qui a dit qu'effectivement, la prochaine génération, là, ils ont changé légèrement le form factor et après, ils passent la seconde sur les fonctionnalités et apparemment, ça devrait être vraiment sympa.
Je me méfie de ce genre de rumeur parce que quand c'est fournisseurs qui te disent ça, ça peut parfois être pour faire mousser leur image à eux. Mais bon. Bref.
Il m'a dit, n'achète pas l'actuel, achète la prochaine.
D'accord.
Pour l'actuel. Hein. Donc,
j'ai acheté l'actuel. Bon, ok, d'accord.
Mais tu me la revendras. C'est pas...
oui, c'est ça. Donc, voilà, une réflexion sur Apple qui reste un petit peu vague, mais je crois qu'on arrive là à une étape où ces problèmes-là, si on parle d'un point de vue purement financier, qui a son importance aussi, ces problèmes dans le marché chinois, les problèmes de saturation, sont significatifs et on a suffisamment de temps pour voir où est Apple au niveau de l'innovation. Et je crois que s'il y a des choses intéressantes, les AirPods par exemple, c'est un gadget, mais c'est hyper bien designé, hyper bien conçu. Pour moi, c'est succès, un vrai succès au niveau technologique. Mais bon, moi, pour la première fois, en tout cas, je regarde tout ça et je me dis, là, on arrive à un point où on peut légitimement se poser la question.
Oui, c'est ça. Donc après, quel tournant est-ce qu'ils vont prendre ? Je pense qu'effectivement, on est à la fin d'un cycle. Est-ce qu'ils vont se tourner plus vers le service et continuer à faire des produits, mais peut-être moins investir dedans ? Ou alors, est-ce qu'ils ont dans leur bannette un nouveau produit révolutionnaire qui vont pouvoir présenter et qui va relancer la machine ? Voilà. Aujourd'hui, effectivement, on est en attente de voir la suite. Mais c'est intéressant.
Bon, tu sais... je voudrais parler un petit peu du passé et je voudrais parler d'un truc qui s'est passé en 2008, très précisément le 18 décembre 2008 à 8h12 à 20h12 spécifiquement. Essayez de réfléchir un petit peu vous-même dans votre tête. Qu'est-ce qui s'est passé le 18 décembre 2018 à 8h12 du soir? Bon, vous trouverez pas. Hein. En fait,
2008.
Oui, bah vous trouverez pas parce que c'est un tweet que j'ai envoyé en fait. Donc, c'est un tweet. Non, mais ça m'a fait quelque chose parce que c'est un tweet où je disais et c'est un utilisateur de Twitter qui l'a fait remonter. C'est un tweet où je disais en anglais. Faire des podcasts, c'est quand même très très cool. J'aimerais bien quand même que podcasteur, ça soit un vrai boulot. Et j'avais évidemment complètement. Non, mais c'est ça. J'avais complètement oublié ce tweet, bien sûr, et puis cette idée où il y a 10 ans à peine, je me disais mais j'adore faire des podcasts. C'est tellement plein de naturel, de fun. C'est tellement intéressant. C'est tellement plus captivant que ce qu'on peut avoir dans la presse ou les médias traditionnels sur des sujets qui nous passionnent, sur ces sujets de niche. J'adore faire ça, j'adorerais pouvoir en faire mon métier. Et aujourd'hui, bah oui, c'est mon métier. Et vous voyez venir la petite pirouette, c'est mon métier grâce à Patreon et grâce aux auditeurs qui soutiennent cette émission qu'ils apprécient. Donc, un petit peu plus, de manière un petit peu plus émouvante encore, et on a les 10 ans de l'émission qui arrivent, donc ça sera encore un petit peu émouvant, mais c'est quelque chose qui, pour moi, a une importance qui date pas d'hier. C'est une idée que je chéris depuis longtemps, et c'est un fantasme que j'ai depuis longtemps de vivre de ce métier. Et maintenant, grâce à vous, grâce aux auditeurs qui aiment bien l'émission, bah c'est possible. Donc c'est pas juste pour moi hein, que je vous dis oui, bien sûr pour moi. Si vous appréciez l'émission, il y a plein de gens qui le font déjà sur patreon.com, comme je le disais tout à l'heure, il y a plein de gens qui le font déjà. Mais si vous appréciez l'émission, je vous encourage à soutenir ce que vous appréciez. Vous allez sur patreon.com, vous prenez une bonne résolution pour l'année, c'est de permettre à ce type de média d'exister sans avoir recours à de la pub. On parle souvent des problèmes que posent les business models tournés sur la pub. Et ben vous pouvez faire quelque chose, bonne résolution, comme moi je le fais d'ailleurs. Je paye énormément de trucs pour permettre aux médias que j'apprécie de vivre, de se reposer un petit peu moins sur la pub, même si certains ont de la pub aussi, et je le fais aussi beaucoup par Patreon. Donc je vous encouragerais à jeter un petit coup d'œil, patreon.com/rdvtech. C'est une, moi pour, bon, je suis un petit peu biaisé peut-être, mais ça me paraît être une bonne résolution pour 2019.
Très très bonne, d'autant que je vais en rajouter une couche. Aujourd'hui, si vous cherchez un petit peu dans le milieu du podcast ce qui se passe, et notamment aux États-Unis, il y a des gens qui essayent de pouvoir insérer des pubs directement de manière dynamique dans le MP3 des podcasteurs, etc. Donc si vous ne voulez pas que ça arrive, si vous voulez continuer à avoir des émissions intègres, voilà, c'est le meilleur moyen effectivement de soutenir vos podcasteurs préférés.
Le lien est dans les notes de l'émission, patreon.com/rdvtech. Bon, passons aux news et rumeurs, et on va parler un petit peu des tendances.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Pour 2019, bon, c'est un exercice un petit peu obligé hein, quand la nouvelle année s'ouvre.
Allez, bingo. C'est, le
voilà, exactement. Mais parfois, c'est aussi un petit peu périlleux, hein, parce que on a tendance à se planter. Mais qu'est-ce que, alors j'ai mis quelques articles dans les notes de l'émission que, d'ailleurs, certains patriotes ont accès aux notes de l'émission au palier $5. Vous n'oubliez pas que c'est un outil très pratique, hein, si vous faites de la veille ou si vous voulez aller plus loin, vous pouvez accéder aux notes de l'émission si vous êtes à ce niveau. Mais bon, bref, j'ai quelques articles là qui en parlent. Pour toi, quelles sont, on va dire, les deux tendances de 2019 qui seront importantes ?
Oh bah, malheureusement, c'est les deux premières que tu as mis. Hein.
D'accord.
Alors là, on va manger du pliable dans tous les sens. Alors, je vais regarder ça avec un œil amusé, je pense, parce que je pense qu'il va y avoir des idées très très bonnes. Et il va y avoir il va y avoir du grand n'importe quoi. Donc,
quand voilà, tu dis pliable, c'est les téléphones pliables, hein, bien
ouais,
sûr.
Ouais, smartphone, etc., etc. Donc, on a déjà vu fuiter quelques idées qui semblent intéressantes, notamment un téléphone qui se déplie, mais il est en trois, donc il y a l'écran de face et après derrière en fait il y a deux parties qui viennent de l'arrière et qu'on peut replier, ça fait une espèce de tablette. Du coup ça c'est intéressant parce que les pliures sont pas franches, mais peuvent maintenir un arrondi, ce qui abîme beaucoup moins l'écran. Il y a des petites choses je pense que de toute façon là au CES il va y avoir des choses de montrer, voilà. Et puis après effectivement tout ce qui est IA à fond.
Alors intelligence artificielle, j'ai l'impression que c'est une tendance qui est là déjà depuis plusieurs années. Hein. Qu'est-ce qui changerait en 2019 pour que tu le mettes comme tendance de 2019?
Là, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le cloud. Il y a beaucoup d'API, etc., qui sont mises à disposition par les acteurs majeurs, hein, donc Microsoft Azure, Amazon AWS, etc., qui permettent maintenant de plus en plus simplement d'utiliser des algos d'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, on le voit de plus en plus dans le monde professionnel. Moi, je suis appelé très régulièrement pour sécuriser ce type de plateforme. Je migre vers le cloud. Qu'est-ce que je fais pour assurer ma sécurité? Et parce que ils utilisent justement cette IA qui est fournie par Azure ou par AWS pour alors tout et n'importe quoi, traiter de la donnée personnelle, faire du scoring, faire de la reconnaissance faciale, il y a énormément de choses. Et ça explose dans le milieu professionnel, alors que jusque-là, les gens étaient un petit peu frileux encore. Et là, il y a quand même beaucoup, beaucoup de monde qui prend ce virage. Donc pour moi, c'est IA plus cloud.
Ouais, donc c'est vraiment intéressant ce que tu dis. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, l'intelligence artificielle était un petit peu le précaré des géants de la tech, qui les utilisaient pour leurs propres applications ou leurs propres services. Et maintenant, c'est un petit peu ces mêmes géants, mais ils ont packagé cette technologie et cette connaissance qu'ils ont dans le domaine. Et ils la vendent en service, en fait, en petits morceaux, au temps ou à la puissance, etc. Et donc, ça veut dire que ça se propage dans le reste de l'industrie tech et que tout le monde peut y avoir accès. De la même manière que, c'est marrant, il y a un parallèle très clair à faire avec le cloud, de la même manière que Amazon Web Services, AWS et d'autres aujourd'hui fournissent de l'hébergement et du temps de serveur en service très simple à utiliser et que l'ensemble du monde de la tech l'utilise maintenant depuis des années, il va se passer la même chose pour l'intelligence artificielle et la culbute, c'est cette année, quoi.
Oui, en grande partie, et je te dis, ça se voit avec le virage que prennent les professionnels. Mmh. Moi, parmi mes clients, il y avait énormément de gens qui disaient le cloud, moi jamais, et qui me rappellent parce que cette année, ils ont décidé d'amorcer le virage et de partir dans le cloud et d'utiliser en plus des services d'intelligence artificielle. Donc après, si tu veux qu'on fasse une émission un jour spécialisée sur le cloud et la sécurité, pas de problème, je suis ton
ami. Eh ben écoute, on y pensera, ça pourrait être très intéressant en effet.
Je crois que tu en avais déjà parlé avec Christophe.
Avait parlé. Enfin, la sécurité, c'est forcément un sujet qui revient régulièrement, mais regardez, faites une recherche sur le site avec spécial. Tous les épisodes spéciaux ont le petit tag spécial dessus et vous pourrez voir ces épisodes qui sont un petit peu moins centrés sur l'actualité et qui sont toujours intéressants.
Comme ça, on pourra parler du compte Twitter d'Angela Merkel, tout ça.
Par exemple. Ouais, moi j'ajouterais un truc que j'ai envie de mettre et en même temps pas envie de mettre, c'est la 5G. Je crois que cette année, ça va pas être l'année où elle va arriver pour tous les utilisateurs, mais par contre, on va voir les premiers téléphones 5G vraiment être commercialisés, même s'il y en a, je crois, déjà eu, possiblement. Mais en tout cas, il y en aura une bonne batterie. Je pense qu'Apple va, comme toujours, être un petit peu en retrait. Ils ne sortiront leur téléphone 5G qu'en 2020. Mais au-delà des tests, les premières commercialisations vont arriver aussi. Elles seront évidemment très limitées géographiquement et même dans l'implémentation de la puissance. On va voir les premiers termes marketing d'ailleurs qui vont avoir des sortes de 4G plus renommés.
Ouais, on va surtout voir les tarifs des premiers, les premiers tarifs.
Les premiers abonnements, oui, c'est ça.
Qui vont crever le plafond, je pense.
Et c'est un peu... Et c'est un peu des forfaits qui seront un peu inutiles parce qu'on n'aura pas vraiment la 5G partout. Mais,
non.
Mais c'est l'année où, pareil, la culbute va se faire. Et l'année prochaine, je pense que la 5G sera vraiment dans notre quotidien. Mais cette année, on va en entendre parler énormément, je crois.
Alors moi j'ai eu une démo parce que je travaille pour une filiale d'un opérateur dont le nom est une couleur. j'ai une démo de la 5G. Alors c'est clair que diffuser de la 4K sans fil, c'est vraiment hyper impressionnant. Enfin, via du réseau mobile, c'est vraiment hyper impressionnant. Mais effectivement, avant que ça arrive et que ça soit déployé, enfin, les infras sont quand même énormes à déployer. Donc, tu l'avais mis, hein, mais il y a la SERP qui a publié une carte. Nous, on a reçu les vœux là cette année de Stéphane Richard qui dit voilà, ça y est, cette année on amorce la 5G et avec les villes qui sont élues pour les premiers tests. Bon, le problème effectivement là c'est les téléphones, parce que les téléphones 5G, bon bah moi j'ai un iPhone 10, bon bah, il est pas 5G. Et puis je crois que de toute façon avec la puce 5G actuelle, il y a des problèmes de chauffe et de consommation, donc il va falloir attendre très certainement la prochaine génération de puces.
C'est ça, c'est pour ça que je dis la première année, la 2019, je recommanderais à 99% des auditeurs d'attendre, parce que la 5G, c'est en train de se mettre en place, mais ça sera l'année suivante.
Oui, puis la puce n'est pas prête, et vous allez avoir un téléphone qu'il faudra de toute façon changer très certainement quand la 5G sera complètement déployée.
Finalisée et déployée.
Il est urgent d'attendre, comme on dit.
Voilà. Bon, il y a d'autres tendances qui se dessinent, les boutiques sans paiement, dont on avait parlé avec les expériences d'Amazon, etc., les robots de livraison, ce genre de choses, et puis des choses un petit peu plus techniques, le edge computing pour l'Internet des objets, etc. Mais pour les tendances consumer, comme on dit dans the industry, je pense que effectivement ces choses qu'on a évoquées sont les plus notables. Retournons un petit peu dans le passé. Il y a un compte Twitter, un jeune homme qui s'appelle Emil Protalinsky, qui a publié qui travaille chez VentureBeat, qui a publié une liste des sociétés, des sociétés de l'âge qu'elles auront en 2019, des grandes sociétés de la tech. Alors IBM, je vous en donne quelques-unes. IBM 108 ans. 108 ans IBM, rendez-vous compte.
Ouais,
Microsoft, 108 ans, oui. Microsoft 44 ans, Apple 43 ans, Amazon a quand même 25 ans.
Ouais.
Netflix, bon, 22, ils avaient commencé avec d'autres choses. Google,
ils
21.
Ils avaient commencé avec Wine Video Club.
C'est ça. Livraison par livraison de DVD. Facebook a 15 ans. On n'est plus dans la petite start-up qui débute, hein, et peut-être encore plus que ce qu'on imagine. Twitter, 13 ans. Uber, 10 ans. Et Snapchat, 8 ans. Il a aussi mentionné Lyft, qui a 7 ans. Moi, ce qui m'a frappé encore plus
et
que
Tesla,
les âges qui sont intéressants... Tesla, 16 ans aussi, oui, tout à fait. Ce qui m'a encore plus frappé, même que les âges, qui pour certains sont intéressants, c'est cette idée que les startups auxquelles on pense, ou en tout cas les grosses sociétés de la tech auxquelles on pense, ont toutes plus de 5 ans, en fait. Il n'y a plus vraiment de choses. Même Airbnb a, je crois, 7 ans ou 8 ans, quelque chose comme ça. Il n'y a plus vraiment de grosse société qui est arrivée sur le marché dans, on va dire, les 5 dernières années. Peut-être qu'on pourrait mentionner Slack à la limite ou ce genre d'outils, mais ils sont quand même relativement mineurs par rapport aux autres dont on parle, et même aux autres dont on parle quand ils avaient 5 ans. Et j'en vois pas. Moi, j'ai du mal à imaginer, peut-être que certains auditeurs penseront à une société plus jeune qui a changé des usages ou qui est arrivée et qui a mis un coup de pavé dans la mare. Un coup de pavé dans la... Non, un coup de pied dans la fourmilière
un
et un pavé dans la mare.
Ou un pavé dans la mare, comme tu veux. Choisis.
Un coup de pavé dans la mare, on va dire ça comme ça. Et j'arrive pas à y penser. Est-ce que t'en vois, toi, des plus jeunes? Moi, je... Et ça, je sais pas, ça... C'est significatif, ça indique quelque chose de l'industrie tech aujourd'hui. On est quand même, on est en train de devenir un petit peu ronflant, quoi.
Je sais pas, il faudrait que tu demandes à notre ami de la Silicon Valley.
Oui, on demanderait à Jeff, oui. Non, mais. Non,
je veux dire, peut-être que Jeff nous en sortirait de son chapeau. Il doit y en avoir, ça me vient pas forcément à l'esprit, mais c'est vrai que aujourd'hui, on est face à des entreprises qui ont mis un petit peu de temps à percer, ce qui est pas plus mal, hein. Souvent, celles qui percent vraiment trop, trop vite, ça fait start down aussi vite que ça a fait start-up.
Ouais.
Voilà. C'est vrai que Snapchat 8 ans, Uber 10 ans.
Et ouais.
Quand j'ai vu le chiffre, c'est vrai que je me suis dit quoi, mais 10 ans Uber quoi.
Alors je sais pas si. Non, vas-y, fini.
Non, vas-y.
Je sais pas si c'est parce qu'on a toujours l'impression que ces sociétés, bon bah c'est depuis leur le moment où elles ont été créées, il y a de toute façon 2, 3, 4 ans avant qu'elles commencent à arriver sur le devant de la scène, on pourrait imaginer, je sais pas, une société comme Shadow qui me vient à l'esprit là, qui va peut-être devenir quelque chose de plus grand, mais ils ont déjà, je sais pas, 3 ans, 4 ans, ça commence à faire un petit peu de temps. Mais oui, on m'aurait demandé comme ça de but en blanc quel âge a Snapchat. Je t'aurais pas dit 8 ans, j'aurais dit, je sais pas, 4 ans, quelque chose comme ça. Uber, pareil. Et pourtant, j'ai le souvenir du lancement en France, à Le Web, la conférence à l'époque. Oui, c'était en, je sais plus, 2010 peut-être, quelque chose comme ça. Donc, ils existaient déjà depuis un moment avant. Donc, bon. Ça, c'était une réflexion intéressante. Si vous avez idée, moi je pense que Jeff nous dirait oui, c'est des trucs plutôt biotech, fintech, ce genre de trucs qui sont pas très grand public, qui révolutionnent là encore différents
non,
marchés.
Mais, ouais, c'est mais, ça. Des startups, il y en a plein, mais souvent sur des voilà, enfin tu peux, on pourrait citer
sur des
fintech,
segments,
voilà, sur, mais c'est sur des marchés de niche qui ont un effet sur la plus grande masse comme ça. Là, j'en ai pas d'autres qui me viennent effectivement à l'esprit.
C'est vrai, ouais. D'ailleurs, un petit mot pour signaler que Windows 10 a atteint 39,2% de part de marché mondial et a enfin surpassé Windows 7 qui est désormais à 36,9%. Donc, vous voyez, les deux ensemble, ça fait quand même une bonne part du marché des systèmes d'exploitation. Mais voilà, Windows 10, il a été lancé quand? Il y a 5 ans, Windows 10 peut-être? Mmh. Attends, je vais vérifier parce que maintenant
fais un check. Non, 3 ans, 4 ans, 4 ans peut-être.
4 ans. Bon, Windows 10 lancé en 2014, 4 ans donc. Même un peu plus.
Voilà. Mm. 4 ans avec bon, pas toujours que des wins. Hein.
C'est vrai. Mais bon, c'est bon. Mais, bref, on va pas repartir sur Windows 10, mais c'est intéressant.
La dernière mise à jour en date a un petit peu peiné à arriver, mais voilà.
Tiens, parlons un petit peu puisqu'on parle du futur. C'est pas des, enfin du futur, des choses qui ont changé le paysage de la tech. C'est pas des nouveaux entrants et ça peut-être que c'est à mettre en rapport avec ce dont on parlait tout à l'heure. Mais évidemment, les enceintes intelligentes ont pris une place importante dans le marché de la tech ces dernières années, ces 2 ou 3 dernières années. Même si moi j'ai toujours du mal à leur trouver des usages, je suis clairement dans la minorité puisque aux États-Unis en tout cas. 41% des utilisateurs ont désormais une enceinte intelligente et c'est à comparer à environ 21% en 2017. Donc on a eu une croissance, enfin un parc installé qui a doublé en un an, ce qui est énorme quand on pense que ça correspond à aujourd'hui plus d'un tiers, presque la moitié des utilisateurs aux États-Unis qui ont des enceintes connectées. Et à ce propos, Amazon a annoncé qu'il y avait dans le monde 100 millions d'appareils avec Alexa installés, qui ont été vendus, et ce à quoi Google a répondu qu'ils avaient 1 milliard d'appareils qui ont Google Assistant. Alors là, on parle pas juste...
Ouais, mais bon, c'est téléphone compris.
Voilà, bien sûr. Mmh. Mais c'était 500 millions en mai 2018. Donc, ouais. En moins d'un an, ils ont doublé la base en mettant Google Assistant partout, bien sûr. Mais...
Et Amazon va doubler ou tripler la base puisque ça va être intégré à Windows 10. Tu vois.
C'est vrai, c'est vrai. Tout à fait. Voilà. Oui. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça, mais là,
je pense
ça va être
que
même
Amazon,
plus que doubler.
Ils vont pouvoir les retacler Google derrière en disant « Eh ben, nous, on est présents sur tous les Windows. » Voilà.
C'est vrai.
Voilà, bref. Oui, alors, enfin, je tiens à te rappeler, tu trouves pas d'usage aux enceintes connectées. Je tiens à te rappeler que tu as justifié l'achat de ta nouvelle Apple Watch en disant que tu avais besoin d'une lampe torche pour la nuit. Hein.
Je crois
te le rappelle.
Que je vais jamais m'en sortir de cette. Tu sais que tout le monde, à chaque fois que je parle d'une Apple Watch pour une raison ou une autre, quelqu'un m'envoie, enfin, sur Twitter ou Facebook ou en message privé, machin, on m'envoie des photos de lampe torche et tout. Donc, je comprends.
Je suis désolé de faire partie de ça. Moi, j'ai une Bernadette, comme on l'appelle chez Studio Renegade, pour éviter que ça déclenche chez tout le monde. Voilà. Donc.
Oui, j'ai dit non plusieurs fois. Je suis désolé si ça a provoqué des choses.
Amazon Echo. Moi, je m'en sers un petit peu pour la domotique. Enfin, essentiellement. Après, pour écouter de la musique, parce que finalement, on a une enceinte dont le son est pas trop mal. Je trouve ça plutôt
mais
pas mal. Effectivement, il y a pas mal d'usages à venir. D'ailleurs, j'ai un petit message personnel à faire passer à nos amis d'Amazon. Pourquoi est-ce que la Skills iTunes Apple Music est dispo sur le store américain et qu'elle tarde autant sur le store français, s'il vous plaît.
Scandaleux.
Merci.
Honteux.
Voilà, c'est scandaleux. Voilà.
Ouais, mais c'est effectivement, il y a plein de gens qui en ont l'usage. Hein. D'ailleurs, à chaque fois qu'on en parle dans l'émission, il y a des auditeurs qui viennent en commentaire me dire « Ah oui, mais moi j'utilise pour ça, dans la cuisine, le matin, pour le truc, c'est génial. »
Dans la cuisine, pour tout ce qui est timer, etc., c'est intéressant. Je sais pas si t'as vu, il y a aussi une horloge qui est sortie, alors qui parle pas, mais qui intègre Alexa et qui permet de voir le timer en temps réel avec des petites LED, etc., qui coûte une trentaine de dollars. 37 ou enfin moins de $40 on va dire. Donc je pense que tout ça ça va gentiment se développer et que les usages, tu as raison, hein, quelque part les usages sont encore à trouver.
Mais il y a plein de gens qui il y a d'ailleurs, c'est la stratégie d'Amazon de fournir ces kits dont on avait parlé à l'époque où ils les ont annoncés, de manière à ce que n'importe qui puisse intégrer Bernadette dans leurs appareils.
Ouais.
Et du coup, c'est sûr que ça va continuer. Il y a un autre usage dont certains auditeurs m'avaient parlé. C'était peut-être d'ailleurs Cédric Ingrand qui me l'avait mentionné, mais les enfants qui savent pas encore lire et écrire, qui peuvent du coup interagir très facilement avec les appareils, simplement en parlant. Et c'est vrai que moi, j'y avais pas pensé, mais bon, d'ici quelques temps, je risque d'avoir cet usage aussi,
oui.
Avec le petit qui grandit.
Alors, moi, les enfants le font, et pour des recherches Internet, par contre, je les corrige. C'est-à-dire que quand ils... Alors, moi, là, ça pose un vrai problème, éthique, non, pas éthique, mais si tu veux, le problème, c'est tu vas poser la question à ça ou à Echo, enfin voilà, à ton enceinte connectée, et tu vas lui dire, je sais pas, quelle est la couleur du cheval blanc d'Henri IV, d'accord ? Elle va te répondre, mais elle va te donner une réponse. Un moteur de recherche va t'en donner 10.
Tout à fait, on parlait avec Guillaume justement à l'épisode précédent sur ces questions d'éthique. C'est un vrai problème, ça donne une réponse et ça change la manière dont on perçoit la recherche d'informations. Oui. Et donc toi, tu fais quoi ? Tu leur dis, non mais allez
chercher. La petite, elle a 5 ans, donc je lui dis rien. Mais par contre, mes grands qui sont plus grands, enfin le grand a 12 ans, je lui dis, non, tu vas sur Google et tu regardes et tu vas voir que tu as différents points de vue, etc. Et fais-toi ton propre avis. Et voilà, j'essaye de les éduquer dans ce sens, parce qu'effectivement, ça peut poser des problèmes. Et effectivement, maintenant que je te le dis... Je me rappelle de l'émission d'avant où vous en avez parlé.
C'est intéressant parce que tu diriges ton grand sur Google, qui va revenir en disant « Ah, papa, regarde, j'ai vu sur superconspiration.net que le cheval blanc d'Henri IV, en fait, il était marron.
Ouais.
Donc, tu vois bien, propre avis. »
Je te dis Google parce que machinalement, c'est Google. Mais depuis un peu plus d'un an à la maison, la page par défaut, c'est quoi ?
Ah, bah écoute, voilà. Très bien, on en parlait justement.
Ouais, je sais, c'est pour ça, je te dis. Voilà.
Bon, parlons un petit peu d'autres choses. Le Samsung Galaxy S10, il y a eu une sorte de leak qui a été publié. C'est donc on aurait effectivement la confirmation que alors il y a plusieurs versions de l'appareil, mais il n'y aurait pas de on en avait déjà parlé, hein, mais il n'y aurait pas d'encoche, mais simplement un petit trou en haut à droite de l'écran avec une unique caméra et il y a plusieurs, c'est les S10 Beyond 1, Beyond 3, Beyond 10, je sais plus comment ils vont les appeler, ouais. Mais effectivement donc il y aurait sans doute que je dise pas de bêtises, un lecteur d'empreintes digitales sous l'écran. Et un écran presque bord à bord, puisque l'encoche est supprimée. Et à côté de ça, on a le Nokia 9 PureView qui confirme ses 5 caméras, ses 5 appareils photo à l'arrière pour toutes sortes de choses incroyables qu'il ferait grâce à ses 5 appareils photo.
Ça me laisse dubitatif.
Ouais.
Bon. Vraiment, hein. Tu sais, en fait, là, j'ai enlevé la coque de mon iPhone 10. Et du coup, maintenant, quand je le pose, j'ai cette espèce de truc qui me gêne, là, avec les...
Ah, mais écoute, tu seras content du Nokia, puisqu'il est entièrement plat à l'arrière.
Alors, ouais, c'est vrai qu'il est entièrement plat, parce que cette année, il y a quand même une grosse tendance. Alors, je sais pas si t'as vu le leak d'un futur iPhone avec trois objectifs aussi.
J'ai vu, effectivement, ouais.
Voilà.
Ah, bah, c'est aussi une tendance dont on aurait pu parler, les objectifs qui se multiplient, mais...
C'est ça. Bon, moi, quand on voit ce que fait un Pixel, sans faire de pub pour Google, mais voilà, quand on voit ce que fait un Pixel avec un seul capteur, mais juste avec de l'intelligence artificielle, j'ai envie de me dire, voilà. et Marion ne dira pas le contraire, si tu veux faire des vraies photos, achète-toi un appareil photo.
Oui, mais bon, ça c'est encore un autre débat, effectivement. Si on réussit à s'approcher de plus en plus de la qualité optique d'un appareil plus performant en ajoutant des objectifs. Moi, je pense que... Je suis peut-être encore... On revient à nos histoires de vieux cons, mais moi, je reste convaincu qu'il y a une question de base fondamentale physique qu'il faut assurer autant que possible avant la manipulation numérique. Et ah ben ça, évidemment qu'elle est d'accord. Hyper importante, elle est indispensable, même aujourd'hui, les manipulations numériques sont partout dans tous les appareils photo du monde, tous les téléphones du monde, mais si moi, alors c'est peut-être moi qui suis accroché à mes anciennes habitudes, si on me dit tu peux avoir un téléphone avec deux objectifs, il fera des bonnes photos, et un téléphone avec trois ou quatre objectifs et il fera aussi des bonnes photos... Me dire, ah ouais, mais le 4 objectifs, c'est mieux que 2, non ? Donc, bon, je pense. Mais. T'es pas convaincu, d'accord ?
Non.
Bon, bah, on verra. On verra ce qui se passe avec les prochains appareils, du coup. Une petite mention aussi, quand même. J'aime bien parler de logiciels libres de temps en temps. Si je te dis Thunderbird, ça te dit quelque chose ou pas ?
Est-ce que ça te rappelle les souvenirs ? Alors, j'ai utilisé pendant longtemps.
Comme beaucoup.
En fait, tant que j'étais pas sous Mac. Voilà. Ah. Et le jour où j'ai switché sur Mac, j'ai arrêté Thunderbird.
Alors, on rappelle ce qu'est Thunderbird pour les utilisateurs qui sont moins au fait de ces choses-là. Thunderbird est un logiciel édité par la société Mozilla. Mozilla qui, bien sûr, est aussi le créateur de Firefox, l'un des navigateurs alternatifs pas sécurisé, mais qui va moins utiliser vos données, puisqu'il n'est pas un navigateur d'un des grands des GAFAM. Et donc Thunderbird est un logiciel de mail, de messagerie, qui télécharge vos messages localement ou, en fonction de la manière dont vous le configurez. Et qui était laissé un petit peu à l'abandon par Mozilla depuis quelques temps. Ça fait presque 10 ans d'ailleurs. Et là, ils ont annoncé qu'ils allaient relancer le travail sur Thunderbird. Il était maintenu un petit peu par une équipe presque de volontaires. Et là, ils vont relancer le travail avec une vraie équipe qui est dessus pour le ramener dans la modernité. Et je trouve que c'est une idée intéressante parce que à l'époque où on se dit peut-être qu'on veut moins donner nos données aux GAFAM... Et forcément, quand on utilise Gmail, c'est super pratique, mais du coup, Google utilise toutes nos données. Et ben, une alternative, c'est d'utiliser un client local, comme Thunderbird, comme Mail sur Mac, comme d'autres sur PC, enfin, le courrier sur PC, enfin, sous Windows, et il y en a d'autres. Et Thunderbird, évidemment, c'est Mozilla, donc c'est un certain cachet de sérieux et de sécurité. Donc, je trouve ça bien qu'il se relance dedans.
Moi, je trouve ça bien aussi. Thunderbird, moi, je l'utilisais parce que c'était un des premiers à implémenter du chiffrement et de la signature sur tes mails. Mmh. Donc, tu pouvais intégrer du PGP, etc. Et donc, chiffrer tes mails et éviter que voilà, des yeux peu scrupuleux puissent aller regarder à l'intérieur de tes mails. Donc, je trouvais ça bien. C'est vrai qu'après, je l'ai un petit peu abandonné.
Bah, comme tout le monde, quand on est passé au web, j'imagine que tu utilises des webmails, non?
Ouais, voilà. Alors maintenant, je fais mon bobo. J'utilise ProtonMail.
ProtonMail, oui, bah sécurisé, bien sûr.
Voilà. Après, pour moi, le meilleur moyen quand même de sécuriser ses mails est effectivement d'utiliser un client local et d'héberger soi-même ses mails. Aujourd'hui, tu peux le faire pour quelques euros par mois. C'est pas toi qui gères forcément le serveur, mais tu enregistres ton nom de domaine et avec ça, tu as accès à une messagerie, en général à 5 adresses de messagerie. Et voilà, si tu veux pas que Google ou un autre aille voir tes données, le meilleur moyen, c'est d'héberger toi-même tes mails. Mais là, c'est encore un autre débat et on pourra en discuter.
Ouais. D'ailleurs, il y a on a eu des réponses intéressantes à notre, on n'arrête pas d'y faire référence, mais l'épisode précédent où on a parlé avec Guillaume Champeau de l'éthique des données personnelles, et certains nous ont dit, vous êtes gentil, mais enfin, c'est pas facile à faire ces choses-là. La plupart des gens ne comprennent même pas le concept de comment ça marche. C'est sûr, c'est pas forcément facile, mais je dirais pour certains, ça peut être intéressant, et puis pour d'autres, il y a des alternatives, comme par exemple simplement le fait d'utiliser Thunderbird. Et télécharger ses mails ou d'utiliser ce client avec d'autres services de mail, ça peut être une bonne alternative. Donc, bref, ça me fait plaisir de voir revenir ce petit oiseau plein d'éclairs.
Moi aussi.
Bon, on parlera la semaine prochaine, si tout va bien, avec Cédric Ingrand du CES. Il y est en ce moment, c'est pour ça qu'il n'est pas là aujourd'hui. Et il nous dira tout ce qu'il a vu de cette grande fête de la technologie, qui est parfois un petit peu comique. Il y a des choses qu'on commence à voir, comme des appareils qui émettent des odeurs, des robots qui vont vous livrer des snacks. C'était peut-être pas au CES qu'on a vu ça, c'était PepsiCo.
Alors, c'est marrant, parce que tu vois, les appareils qui émettent des odeurs, il y a un petit Français qui avait inventé un réveil qui te réveillait avec des odeurs le matin. Et il avait gagné un concours organisé par Google à l'époque. J'ai plus la référence en tête, mais en fait, tu pouvais te réveiller le matin soit avec une odeur de café, une odeur de chocolat, etc. Et donc, à l'heure dite, ça émettait cette odeur grâce à des petites capsules. Et donc, ça te réveillait, tu te réveillais de bonne humeur. Voilà.
Avec les bonnes odeurs. Et c'est là, c'est quand ce genre d'appareil sera vraiment démocratisé. Enfin bon, le smellotron, on en parle depuis très très longtemps, mais quand ils seront vraiment démocratisés, que les gens vont faire attention à leur sécurité informatique. Parce que le jour où tu te fais hacker ton smellotron et que tu te réveilles avec des odeurs non désirées, je peux te dire que tes mots de passe, tu les sécurises, hein.
Alors, si tu vis à Mimizan, comme moi, hein, parce que j'habite dans les Landes à Mimizan, à une heure de Bordeaux, il y a une papeterie chez nous, tu vois, qui émet une odeur absolument infernale. Et donc, Et cette nuit, je me suis fait réveiller par l'odeur de papeterie. Et effectivement, j'aurais pu croire qu'on avait hacké mon smellotron. Tu vois, voilà.
Bon, je voulais quand même mentionner une chose du CES, peut-être qu'on en reparlera, mais c'est l'annonce de Nvidia des nouvelles GeForce 2060. Vous vous souvenez de ces nouvelles cartes graphiques qui permettent d'avoir des rendus de qualité incroyable. Alors là, c'est une gamme un petit peu en dessous, qui est quand même en prix de vente conseillé $350, donc on n'est pas à des tarifs abordables. Ouais. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est la série des RTX 20 pour les portables, parce qu'il y a énormément d'utilisateurs de portables qui aimeraient bien jouer et avoir des utilisations gourmandes en calcul graphique. Et donc, pour moi, l'arrivée de cette série sur portable est encore plus importante que la série des cartes individuelles autonomes, mais des cartes pour PC, qui va intéresser quelques gamers comme moi, mais pas forcément, qui d'ailleurs vont attendre la série suivante, je pense,
j'ai une GTX 1070 dans un portable, mais c'est une vraie GTX 1070, c'est pas une version portable, c'est une vraie GTX 1070 dans un
ROG. Awesome.
Oui, bah alors clairement, je suis rarement sur batterie. c'est un peu le problème aussi qu'on avait avec les cartes graphiques, c'est que très souvent la version portable, elle avait des perfs largement dégradées par rapport à la version
Sur la série précédente, donc les 1070, 1080, 1060, ils ont justement amené les performances mobiles presque au niveau, on va dire à 80% du niveau des performances de bureau. Et bon, a priori, ils continuent la tendance avec la nouvelle série des RTX 20. Mais c'est intéressant parce que pour les portables, ça a toujours été le talon d'Achille des portables, ces performances graphiques en retrait. Et donc là, on peut espérer que ça sera moins le cas que ça ne l'a été par le passé. Donc ouais. Voilà. Si vous
puis ça sera bien pour les nouvelles télé Sony 77 pouces qui ont été annoncées en 8K.
Oui, c'est vrai que l'autre tendance du CES, et là je suis sûr qu'on en reparlera, c'est les télé 8K, dont l'utilité là se pose encore plus même que pour les enceintes connectées. Mais
disons que vu le peu de contenu 4K qu'on a, le 8K,
ils upscale de manière significativement améliorante. J'invente des mots. Le contenu 4K.
Et enfin, ce qui est rigolo, c'est qu'ils nous ont vendu la 4K en disant qu'ils upscalaient le 1080p en 4K aussi, tu vois. Enfin, voilà. Donc,
et puis surtout, la question de voit-on la différence? Moi, je vous avoue que même sur ma télé immense, le 4K, je le vois, mais c'est plus le HDR que le 4K qui me convainc.
C'est plus le HDR. Je pense qu'à un moment, si on n'a pas des yeux augmentés et qu'on n'augmente pas la résolution de nos yeux, on va finir par avoir du mal.
Ouais, c'est ça. En fait, il faut attendre l'autre produit grand public qui sera les yeux augmentés pour avoir...
Exactement.
D'ailleurs, c'est des choses aussi qui sont peut-être pas les yeux augmentés directement, mais la biotechnologie est aussi une tendance importante. J'ai lu plusieurs bouquins de Yuval Noah Harari, qui est un philosophe. Hein, vous avez sûrement entendu parler Homo Deus, Homo Sapiens, et 21 leçons pour le 21e siècle. Hyper intéressant. Et il parle beaucoup de ça, justement, de la biotechnologie et de la manière dont ça va révolutionner.
Oh, puis dans les pays nordiques, ils aiment bien les puces sous la peau, etc.
Puces sous la peau, tout à fait. Ouais.
Ça commence à émerger pas mal. Je ne sais pas si tu as vu, juste pour finir, le tacle, on parlait de la 5G tout à l'heure, le tacle de ces T-Mobile à AT&T.
Non, je n'ai pas vu.
AT&T a balancé des captures d'écran de téléphone avec marqué 5G, tu sais, au niveau du réseau opérateur pour le CES. Et donc, tout le monde sait que c'est du bullshit. Et du coup, T-Mobile a mis un post-it sur le haut de leur téléphone avec marqué 9G. J'ai trouvé ça assez excellent.
C'est sûr, on est vraiment dans cette période, où
la mienne est plus grosse que la tienne.
C'est ça. Et où surtout, on peut pas se fier à ces questions marketing. On se souvient que la 4G avait été marketée comme 4G alors que c'était de la 3G plus ça s'appelait déjà HTH. Bon, j'ai oublié les termes, mais
HSPA.
HSPA, voilà. Mais bon, bref, la 5G, je pense qu'on va en manger cette année et j'espère qu'on pourra être là et vous expliquer si ça en est vraiment ou pas. D'ailleurs, la 5G, il y a plein de normes différentes, donc c'est un petit peu compliqué.
C'est ça.
Mais ça va être tout pour cet épisode, pour cette semaine. Un grand merci à toi d'avoir été avec nous. Stéphane, est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver? Tu parlais de Beats. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu fais aussi?
Oui, ATLB Stéphane sur Twitter si vous voulez me suivre à titre perso. Sinon, effectivement, vous pouvez me retrouver tous les 15 jours dans Beats des amis de chez Studio Renegade. Et si vous vous intéressez à l'impression 3D, j'ai ma chaîne YouTube qui s'appelle Révolution 3D sur laquelle vous trouvez des tests de machines, des tutos, etc., etc.
Est-ce que ça a pas un peu fait pchit l'impression 3D? Je vais te demander ça. T'es un enthousiaste de l'impression 3D, mais c'est vrai que y compris dans l'émission, il y a quoi 3 ans, on en parlait énormément, et 4 ans, et aujourd'hui, c'est pas partout. Hein. On pensait que les machines coûtant moins cher, etc., ça s'installerait chez les consommateurs finaux, et ça s'est pas vraiment produit. Donc j'en profite pour te poser la question, du coup.
Alors, ça a pas vraiment fait pchit. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de marques d'impression 3D, et qui créent des imprimantes 3D. Donc, il y a des nouvelles marques qui arrivent, etc. Donc, on sent qu'il y a encore un marché. Effectivement, ça fait moins le buzz, on va dire. C'est tranquillement en train de s'installer. Et moi, je préfère que ça s'installe tranquillement. plutôt que ça émerge et puis qu'en fait effectivement après ça fasse pchit. Aujourd'hui, un peu comme pour les enceintes connectées, les gens ont eu du mal à voir les usages. C'est aussi pour ça que j'ai créé ma chaîne, parce que j'avais envie d'essayer de montrer les usages. Bon, il se trouve qu'on m'a trop vite fait confiance et du coup j'ai fait plus de tests de matériel que d'usage vraiment de l'impression 3D, donc j'essaye de réinverser la tendance. Non, je pense que ça va vraiment s'installer. Il y a des marques, il y a des grandes enseignes qui commencent à avoir leur propre site où ils mettent à disposition des objets. Je pense à Happy 3D notamment, pour réparer par exemple votre électroménager, etc., sur des pièces qui ne sont plus fabriquées. Ils vous mettent, alors ça peut être le couvercle de la télécommande, ça peut être une charnière pour votre lave-vaisselle, etc. Ils vous mettent l'objet à disposition pour que vous puissiez le réimprimer et réparer vous-même votre objet. Donc voilà, il y a encore des usages à trouver, comme pour les enceintes connectées, mais non, ça devrait continuer à émerger.
D'accord. Lentement mais sûrement, très bien.
Lentement mais sûrement, c'est préférable.
Bon, donc merci beaucoup Stéphane. Pour ma part, c'est NotPatrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez m'y suivre pour avoir mes pérégrinations, des rapports sur mes pérégrinations quotidiennes. Et vous pouvez bien sûr soutenir l'émission, vous le savez, sur patreon.com/rdvtech. Et comme je le disais, ça prend 2 minutes vraiment. Vous avez le contrôle sur tout ce que vous faites avec votre argent. Vous contrôlez combien vous donnez, pour combien d'épisodes vous donnez, etc. Donc, n'hésitez pas à le faire. Encore une fois, si vous passez un bon moment, si ça vous informe, si l'émission vous plaît, patreon.com/rdvtech, c'est le moyen de la financer. Moi, je dis bonne résolution 2019, c'est une plutôt pas mal résolution.
Puis en plus, elle est quand même facile à tenir, celle-là.
C'est ce que j'allais dire, vous pouvez vous y tenir. Aller à la salle de sport toutes les semaines, c'est compliqué. Mais soutenir le Rendez-vous Tech, c'est hyper simple.
Ça, easy. Ça
un bon slogan en marketing, ouais. Sports, difficult, Patreoning, The Rendez-vous Tech, easy. Non, c'est toujours pas assez catchy. Bon, je vais y réfléchir et puis j'y reviendrai.
Ouais, merci. Un truc du genre, tu sais, comme un Apple a Day, Keep the Doctor Away, tu vois.
Oui, oui, je sais pas si on
trouve un truc dans le même genre.
On va y penser. Si vous avez vos propositions, n'hésitez pas à les partager, soit en commentaire, soit sur Facebook, soit sur Twitter. En tout cas, on vous remercie de nous avoir écoutés. Et puis, on revient la semaine prochaine avec un nouvel épisode. Ciao à tous.
Ciao.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.